Poche sous les yeux, l'émission.
Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, surtout en direct sur les ondes de Radio Béton 93.6 et toujours en direct du péristyle de la mairie de Tours à l'occasion du marché de Léon organisé par Béton et qui réunit la crème du bon goût des créateurs. Mais attention, un bon goût abordable, un bon goût qui va faire des jaloux au pied des sapins de Noël. Alors, viendez toutes et tous place Jean Jaurès pour faire de belles emplettes et retrouvez votre radio préférée, que dis-je, votre émission préférée des poches sous les yeux, l'émission programme de cette édition de Noël, comme à l'accoutumée, des chroniques de livres, de bandes dessinées, des interviews et le plein de cadeaux. Et c'est d'ailleurs par le rayon interview que nous allons commencer cette émission, car nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Thomas, qui, quand elle ne nous régale pas en programmant d'excellents spectacles dans la salle Télème de l'Université de Tours, nous concocte depuis quelques années déjà cet étonnant rendez-vous annuel et de Noël qu'est le marché de Léon. Bonjour Cécile.
Bonjour Vincent.
Alors ce marché de Léon, en fait, c'est l'idée de qui ? D'où ça vient ?
Je pense que c'est l'idée de Pascal, Robert, qui traînait comme d'habitude dans des couloirs sombres de la mairie de Tours. Et il s'est fait happer en disant est-ce que vous voulez pas organiser, monsieur Robert, un nouveau marché parce qu'on n'en a plus sur la ville de Tours et tout. Et il a dit oui.
Et oui, mais il a dit oui sans te consulter.
Sans consulter personne, comme d'habitude.
Comme d'habitude, la démocratie a ses limites.
Eh ben oui, hein, voilà, il y a un temps pour tout.
Voilà, vive les associations pour être un peu dictatorial.
Ça fait du bien.
Voilà, et donc il t'a demandé à toi ou il savait déjà que ça te trottait
Alors il nous l'a proposé quand même dans une réunion très sérieuse qui s'appelle un CA de Radio Béton. Et de Béton Prod même. Et du coup, on était trois à dire non, on veut. Voilà. Et donc, avec Béné, l'Increvable, et puis Sardine, l'œil de Sardine, on prépare ça tous les ans, toutes les trois. Et moi, je suis plutôt côté organisation, voilà, avec mes tableaux Excel, comme j'aime bien faire.
D'accord. Et elles ont le réseau d'artistes, d'artisans
Complètement, elles ont le réseau parce qu'elles sont elles-mêmes artistes artisanes. Donc,
Bien sûr. Et ça fait la combientième édition que nous sommes ici au Péristyle ?
Alors, comme on est en 2025 et qu'on a commencé en 2019, c'est la sixième cette année.
D'accord. Et c'est d'année en année, c'est de mieux en mieux, c'est
Ouais, d'année en année, on peaufine notre manière de sélectionner, en fait.
D'accord.
Et là, cette année, on a sélectionné par discipline artistique.
D'accord.
Ce qui fait que on trouve que l'équilibre entre les différents disciplines artistiques est mieux et plus régulière et
il y a de la diversité.
Il y a beaucoup de diversité et donc on a choisi tant de bijoux, tant d'illustrations, tant.
Combien de personnes se sont signalées auprès de cet auguste jury?
On n'est pas très loin des 200.
D'accord.
Candidatures.
Et on vous sous-doit ou est-ce que vous avez mis une commission éthique qui veille à ce que finalement...
Non, on y réfléchit. Ah. On y réfléchit sérieusement.
D'accord. Oui, parce que forcément, il doit y avoir quelques tensions quand même.
Bah oui, forcément. On a une discussion qui dure quasiment un dimanche complet où on débat toutes les trois et où on épluche les candidatures. Alors, on est toutes les trois vraiment super raccord sur... ce qu'on a envie de présenter, sur la sincérité des projets, je veux dire, dans l'authenticité des projets. On veut vraiment que les personnes elles aient cette réflexion de partage, en fait, de dons. Enfin, je suis un peu une baba cool quand même, mais
oui.
Voilà, il y a cette idée que les gens ne font pas ça
de façon mercantile,
ouais,
uniquement.
Voilà, complètement.
Okay. Et comment on mesure la réussite, finalement, d'une entreprise telle que le marché de Léon ?
Bah, à la fréquentation, je pense.
Ouais.
À la fréquentation, au retour de tous les artisans et artisanes qui sont présents, qui nous disent comment ça fonctionne bien, comment le public il est sympa. Les gens ils viennent discuter aussi. Il y a beaucoup d'échanges. Et donc, je pense que c'est quantitatif et qualitatif. Voilà, pour ce que nous, ce que les gens ils nous disent. Après, les exposants nous disent. Après, peut-être que ceux qui ne sont pas contents, ils ne nous parlent pas. Mais généralement, moi,
ils ne reviennent pas.
Voilà, ils ne reviennent pas. Puis moi, je vais quand même demander. Je fais mon petit tour toute la...
Oui, et puis on remarque, moi, en tant que badauds que on retrouve des stands qu'on a vus il y a un an, il y a deux ans, et donc ça veut dire que les gens ont envie de revenir quand même.
Complètement, oui. On pourrait faire d'une année sur l'autre quasiment les mêmes, parce que tout le monde repostule, effectivement, enfin quasiment tout le monde repostule. Et nous, on a des difficultés parfois à amener des nouveaux, parce qu'en fait, il y a des anciens qu'on adore tellement.
Et comment leur dire non ?
Que remplacer par des personnes, Donc, on dit aux artisans et aux exposants, mais auto-censurez-vous une fois de temps en temps pour que nous, on n'ait pas à le faire. Quoi.
D'accord. Et donc, vous avez mis en place une espèce de tirage au sort pour que certains candidats ne reviennent pas.
Complètement. C'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. Bon, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure
C'est ouvert de 10h à 20h aujourd'hui et demain de 10h à 18h.
Voilà, et donc c'est facile à trouver en fait.
On est plage Jean Jaurès, devant les jets d'eau.
Voilà, donc en transport en commun, c'est les doigts dans le nez
Oui, les doigts...
Ou en vélo.
Ou à pied.
En voiture, c'est un peu plus chiant, mais bon.
Ouais,
on n'est pas obligé.
En voiture.
On n'est pas obligé. Un grand merci déjà d'organiser ça d'année en année, de nous offrir cette diversité.
Eh bien, plaisir.
Voilà. Et puis, effectivement, à chaque fois, c'est des découvertes avec des œuvres et puis avec des artisans, des artisanes et puis des artistes en général.
Complètement.
Donc, un très bon moment que
merci.
Je conseille à nos auditeuristes.
Merci beaucoup.
Merci,
à bientôt.
Cécile. Alors, comme vous êtes des auditeuristes avertis, il ne vous a pas échappé que cette année, le festival de BD d'Angoulême avait du plomb dans l'aile, carrément. Mais rassurez-vous, notre premier cadeau, c'est de vous amener un auteur de BD en live sur notre plateau, en la personne de Serge Pelé, que Pascal va se faire un plaisir, bien sûr, d'interviewer. Pour vous seulement, chers auditeuristes de Radio Béton.
Eh bien, bonjour Serge.
Bonjour.
Bon, c'est vrai qu'on est très content de t'avoir et on te reçoit aujourd'hui pour le tome 9 d'Orbital.
Eh oui.
Le tome 9, déjà, j'ai déjà le tome 9. Alors bon, ceci dit déjà, mais ça fait quand même assez longtemps que la série a commencé.
Alors voilà, elle a commencé il y a presque 20 ans.
Oh merde.
Eh oui, et c'est pour ça qu'il va falloir s'arrêter à un moment donné.
Alors on est d'accord que... pour lire ce tome 9, il faut quand même s'être infusé le premier.
Ce serait mieux, c'est préférable. Voilà, il y a des numéros, mais c'est mieux, je pense. Ouais. Si ça fait 20 ans que tu as commencé la série, je pense que ce serait mieux de reprendre, je sais pas, tu prends un après-midi ou deux jours, et puis voilà. Tu
es capable de nous faire un petit pitch quand même de toi.
Alors sur quoi ? Sur le dernier ?
Non, pas sur le dernier, justement. Toi, un petit peu comme un feuilleton. Ouais. On veut
dans les épisodes précédents.
Voilà. Alors écoute, Orbital, c'est une série de science-fiction qui est parue chez Dupuis en 2006 et qui raconte l'histoire de deux diplomates, on va dire, au sein d'une confédération de 767 races, je ne sais plus, il y a beaucoup de... Et donc ils sont là, ils sont liés tous les deux, c'est des binômes, un homme et un ou une extraterrestre, parce qu'on ne sait pas, nous avons déjà commencé nous en 2006 avec...
ça ne m'étonne pas de
la confusion des genres.
Et non, mais c'est ça. Donc voilà, et donc ces deux personnages essayent de régler les problèmes de racisme, d'altérité, au sein de cette confédération. Et ça ne manque pas.
Voilà, donc... Le tome 8 était en 2019, donc
oui.
Si je calcule bien, le tome 10 paraîtra en 2031, c'est ça ?
Non, le tome 10 paraîtra l'année prochaine ou en début 2027, on va attendre... Non, je vais tout faire pour que ce soit dans l'année.
Donc ça veut dire que quand il y en a un qui sort en diptyque, d'accord, c'est une des particularités quand même de cette série.
Oui, c'est ça, oui. C'est pas une histoire de 8 tomes, c'est une histoire de 2 tomes à chaque fois.
Voilà. Et donc, quand il y a un tome qui sort, le premier tome d'une série de 2 sort, le deuxième est déjà prêt ?
Alors non, il n'est pas prêt, il est sur ma table.
Non, mais il y a une équipe de scénaristes qui...
Non, non, évidemment, moi j'ai des showrunners qui sont là, je rentre dans la salle, je dis alors on en est où ? Du tome 10 ? Non, et je suis en train de dessiner, de découper les premières plages de voilà.
D'accord, mais le 10 est déjà en gestation
oui, il est,
avancée,
il,
c'est-à-dire
voilà,
au niveau scénario c'est déjà bouclé, quoi. L'histoire est déjà écrite.
Alors l'histoire est déjà, pratiquement, sauf qu'il semblerait qu'on va sans doute s'arrêter là, voilà, parce que... Parce qu'il faut terminer les choses, peut-être. Donc, on va sans doute s'arrêter au 10. Voilà.
Ah,
ça, c'est une info, ça.
Ah oui, oui. Wow. C'était justement une des questions. Il n'y aura pas de 11, quoi.
Non, il n'y aura pas de 11 et de 12, même si éventuellement j'avais... Non, je pense que là, en fait, je crois avoir fait le tour un peu de tout ça. Et il me tarde de faire aussi un peu autre chose.
C'était un peu logique hein, dans Orbital de faire le tour finalement.
Oui, alors bravo. Bravo.
Merci.
Et c'est pareil pour Sylvain Runeberg.
Alors lui non, parce que lui ça va, il signe des bouquins, il fait des Superman, des Wonder Woman, il a le temps de bosser avec au moins 65 dessinateurs différents. Et je lui ai dit, tu sais, moi j'aime bien moi aussi ça, travailler avec 65 scénaristes différents. Non, écoute, on va s'arrêter là pour Orbital, je pense. Hein, en tout cas.
Sauf s'il y a vraiment une grosse demande.
Voilà. Non, mais il n'y aura pas une grosse demande. Non, par contre, on va essayer de finir ça bien et d'avoir, bah voilà, de prendre le temps de faire les choses bien. Et puis voilà, après.
Mais ce rythme.
Alors bon.
Ce rythme lent, on va dire, alors, suffit à remplir la
cagnotte.
La cagnotte d'un honnête mais dessinateur.
Pas du tout. Surtout qu'on a vraiment un non statut. Donc non, c'est. Alors moi, j'avais fait une pause. Et le truc est sorti en 2019. Ensuite, j'ai eu. Je voulais faire une pause en fait. Voilà, j'avais fait un autre bouquin pour me reposer qui m'a pas du tout reposé. C'était en 2020-2021. Et après, j'ai dit ok, on en refait un et puis voilà. Après, c'est bon. Mais non, en fait, normalement, je peux dessiner assez rapidement. Mais entre les sessions rapides, il y a beaucoup de temps, quoi.
Il faut prendre son temps.
On n'est pas forcément. Alors, on devient pas riche. C'est vrai que je pourrais bosser comme un croate et y aller à fond, quoi. Mais c'est pas mon style, non.
Et je me posais des questions au niveau technique. Donc les BD sont des petites cases. Soit tu dessines en grand ou déjà en tout petit.
Non, moi c'est le double de l'album, quoi.
D'accord.
Voilà. C'est un A3, quoi.
D'accord. Voilà. Donc chaque case, c'est toi qui fais la découpe des cases ou c'est Sylvain?
Ah ouais, non, c'est moi qui fais. Alors il me propose lui un scénario dialogué, découpé, mais c'est plus pour lui dans l'écriture, pour son rythme.
Donc le bouquin est sorti chez Dupuis.
Voilà.
Dupuis qui appartient plus ou moins à Bolloré. Ça fait quoi d'être édité de faire partie de l'empire Bolloré?
Parce que c'est Mediapart. Non. Mediaparticipation, c'est pas Bolloré.
Pour moi, Bolloré, c'est eux qui own Dupuis.
Non, je crois pas. Hein.
Non.
Ben, je ne sais pas, mais je ne sais pas si. Non, je ne crois pas. Hein. Pas encore, en tout cas. Tu crois? Non, c'est Hachette.
Hachette, oui. Mais voilà. Hachette, c'est Bolloré.
Oui, mais c'est le groupe Média Participation. C'est pas. C'est Dupuis d'Argo Lombard. C'est pas encore Bolloré.
T'es quand même sorti.
Après, j'ai envie de te dire, c'est peut-être encore un groupe.
T'es un ami de Sarkozy, quoi.
Moi, je suis un ami de Narcozy, moi. Oui. J'ai que des copains tolards, moi, tu vois. Donc.
Alors, tu es venu au marché de Léon, je crois que c'était en 2024.
Eh oui, c'est ça, non ?
Hein, pour présenter des dessins. Tu en montres d'ailleurs régulièrement sur Facebook,
oui.
des dessins.
Ouais,
Et du coup, là, pour Noël, on ne peut pas acheter de Serge Pelé, quoi.
Alors ça, c'est vrai. Ouais, mais en fait, j'ai trop de boulot, en fait. Je serais bien. L'année prochaine, je viendrai.
D'accord. Mais non, mais ici ou ailleurs.
Ici ou ailleurs.
Non, en fait, tes dessins ne sont pas en vente.
Vous pouvez me contacter.
D'accord.
Via mon Instagram ou si vous avez mon téléphone. Vous passez à la maison, je vous offre un thé et vous achetez moult cartes que j'ai encore à la maison. N'hésitez pas.
Très bien. Donc, Orbital 9 est sorti en octobre.
C'est ça.
Fort opportunément pour toi, une espèce de rampe de lancement.
Mais oui.
Tu t'es tapé des festivals, sûrement des signatures.
Alors, pas tous, parce que tu vois, tu sais que Angoulême ne va pas.
Non, mais non, je parle déjà sur cette fin d'année.
Et bien sûr, ouais,
j'ai fait. Les Utopiales, t'as dû faire, non ?
J'ai fait les Utopiales, j'ai fait Saint-Malo, j'ai fait des libraires dans l'Ouest, j'ai fait Blois. Et nous devions aller à Angoulême. Voilà.
Qu'est-ce qui a décidé de ne pas aller à Angoulême ? C'est Dupuis, c'est toi, c'est Sylvain ?
Alors, on était une vingtaine chez Dupuis à être invité. Non. Non, en fait, il y a eu plusieurs étapes dans ce boycott, girl cut d'Angoulême. Ça a commencé avec Anouk Ricard, la primée de l'année dernière, qui au mois d'avril déjà avait dit qu'elle ne ferait pas son exposition et qu'elle n'irait pas à Angoulême. Il y a eu un collectif d'autrices qui s'est monté aussi pour. Déjà, en 2024, il y avait déjà un appel au boycott l'année dernière. Hein.
Mais,
pas suivi, quoi.
Reprendre l'histoire depuis le début, parce que finalement, j'ai essayé de chercher, j'ai pas tout à fait compris. Il y a l'histoire
de Zoé.
Voilà, qui s'est fait violer par un partenaire, un fournisseur de. Mais ouais. C'est seulement ça ?
Non, c'est pas ça. Non,
j'ai l'impression qu'il y a aussi une sorte de gouvernance, en tout cas de boîte qui tient Angoulême.
9e Art Plus, c'était une boîte qui avait l'agrément depuis 20 ans et qui a été. On lui a redonné, c'est donc. Madame Grou, la présidente de l'association du Festival de la Bande Dessinée, qui a, dans un flou total, redonné l'agrément en 2015, je crois, à cette association, enfin à cette boîte privée. Et là, le 10 novembre, elle devait redonner l'agrément. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a redonné un 9e R+. Et ça a été pour moi le... Voilà. Je me suis dit, bon, moi, je peux pas y aller non plus. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est les auteurs chez Dupuis qui ont unanimement dire qu'ils n'y allaient pas. Il y en avait qui ne voulaient pas y aller plus tôt, de toute façon. Et moi, ça a été le 10 novembre qui m'a dit, j'ai dit, ok, d'accord, t'as redonné encore 10 ans pour 9e R+. Sachant que c'est quand même des gens qui sont assez méprisants, hein, si on fait un petit l'historique de... Et quand on regarde ce qu'ils disent dans les médias, c'est quand même pas folichon.
D'accord. Bah écoute, très bien. Merci Serge pour ta participation. On rappelle Orbital 9,
voilà.
dont le nom de l'épisode,
Sécession.
Sécession. Et c'est en vente partout.
Mais hein, partout, dans les bonnes BD Lire de France.
Exactement, dans les bonnes BD Lire. C'est d'ailleurs là que j'ai acheté cet épisode.
Ils en ont plein. J'espère bien. Je vais passer voir de toute façon comment ils présentent le...
Tu n'as pas fait de signature là-bas?
Si, j'en ai fait une, il y a déjà quelques semaines.
D'accord, très bien.
Voilà. N'hésitez pas à venir me voir si vous voulez une dédicace. Hein.
Très bien.
Eh bien, je vous embrasse.
Merci Serge.
Bonne fin de journée.
Et merci. Et merci Pascal pour nous remettre de ce tour d'orbite. On va s'offrir un second cadeau en forme de pause musicale de saison, bien évidemment, avec Merry Christmas des Ramones.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with...
Depuis un peu plus d'un an, nous profitons de nos directs pour partager avec vous des remixes sonores de Fab Caro, extrait de sa BD « Moins qu'hier, plus que demain ». Ce sera donc votre troisième cadeau de la matinée.
Quand j'étais petite, j'étais très espiègle. J'adorais me mettre des noyaux d'olive dans les narines. Ou imiter Dalida en mettant des robes de ma mère. Et pendant les repas de famille, j'allais sous la table pour voler les chaussures aux gens. Tout ça, c'était avant que mon père soit emporté par un cancer du poumon foudroyant.
Non, pas là.
De retour en direct du péristyle de la mairie de Tours à l'occasion du marché de Léon, le marché de Noël made in béton, c'est l'heure de votre quatrième cadeau qui, cette année, est en forme d'olivier.
Merci. Monsieur Jean-Marie Le Pen est un sapin de Noël. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais si on dit qu'il est un fasciste, il fait un procès. Vous vous souvenez peut-être de ce trait d'esprit de Pierre Desproges dans son almanach publié en 1988, quelques mois après sa mort. J'y ai repensé immédiatement en commençant la lecture du livre de Salomé Sacquet, Résister. Résister à quoi, me direz-vous ? À l'ascension prétendument inexorable des sapins de Noël. Je vous lis la présentation de la quatrième de couverture pour que vous compreniez bien de quoi il retourne. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Dans les urnes, comme dans les esprits, ses thèmes, son narratif et son vocabulaire s'imposent. Il est encore temps d'inverser cette tendance à condition de comprendre les rouages de cette progression et de réagir. Salomé Sacquet commence par rappeler les origines du Front National pour l'unité française, qui s'est surtout fait connaître sous son petit nom Front National, avant de se rebaptiser Rassemblement National, créé en 1972 par le sapin de Noël auquel des proches font allusion, et une poignée de conifères du même acabit, parmi lesquels d'anciens membres de la division Charlemagne, de la milice pétainiste, de la Waffen-SS ou encore de l'OAS. Rien que du beau monde, donc du bon bois de sapin de Noël dont on fait les battes de baseball. Cette bande de joyeux drilles a rapidement compris que pour sortir de la confidentialité groupusculaire et accéder au pouvoir par voie électorale, comme le petit pote Adolphe, il n'était pas possible de compter uniquement sur les amateurs revendiqués de sapin de Noël et qu'il fallait se montrer un peu plus présentable en ajoutant dans les branches quelques aguichantes guirlandes, c'est ce qu'on appelle la stratégie de la cravate, tout en laissant bien en vue les bonnes grosses bouboules qui pendouillent pour montrer qu'on a quand même ce qu'il faut, là où il faut. Bien que longtemps brandi comme un épouvantail, le parti n'a alors cessé de gagner du terrain sur l'échiquier politique en renforçant sa respectabilité de façade, à tel point qu'une personnalité d'envergure, il est vrai plutôt féru d'innovation puisque c'est le seul et unique ex-président de la République à avoir passé une quinzaine de jours en zonzon, a cru bon dernièrement de se positionner publiquement pour une levée du principe du Front Républicain. Vous voyez ce que c'est le Front Républicain ? C'est ce qui permet depuis des années de bien culpabiliser les électeurs à tendance gauchisante qui auraient des scrupules à voter pour des fanatiques du capitalisme débridé dans le seul but de faire obstacle à des sapins de Noël avec lesquels ces derniers partagent pourtant de plus en plus ouvertement les discours, sinon les idées. À propos d'idées justement, Salomé Sacquet rappelle de quoi celles des sapins de Noël sont faites. Deux points. L'extrême droite, écrit-elle, repose sur un nationalisme exacerbé associé à une tendance autoritaire qui défie les principes démocratiques. Elle utilise une rhétorique populiste, souvent teintée de théories du complot, pour opposer le peuple aux élites, tout en rejetant l'immigration et la diversité culturelle. Alors bien sûr, je vous entends ici me dire « Oui, bon d'accord, mais on le sait déjà tout ça ». Et vous aurez raison, on le sait déjà tout ça. On le sait déjà, et pourtant, à un an et demi des élections présidentielles, un sondage crédite Jordan le sapin de Noël de plus de 35% d'intention de vote dès le premier tour. Celles et ceux qui s'en accommodent ou s'en satisfont ont oublié sans doute les mots du pasteur Marcien Niemöller que Salomé Sacquet reprend fort opportunément à la page 77 de son livre. Quand les sapins de Noël sont venus chercher les palmiers dattiers, je n'ai rien dit, je n'étais pas un palmier dattier. Quand ils ont enfermé les cèdres du Liban, je n'ai rien dit, je n'étais pas un cèdre du Liban. Quand ils sont venus chercher les saules pleureurs, je n'ai rien dit, je n'étais pas un saule pleureur. Et quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Bon, j'ai un peu modifié la citation histoire de filer la métaphore sylvestre, mais vous avez compris le concept. Croire que voter pour des sapins de Noël va comme par miracle faire disparaître tous les problèmes, c'est se tromper doublement. D'abord parce qu'il est fort probable que les sapins de Noël qui se présentent au scrutin suprême cherchent bien plus à étancher leur soif de pouvoir personnel qu'à répondre aux attentes des Français, dont ils affirment par ailleurs à longueur de temps être dépositaires sans qu'on sache très bien d'où leur vient cette connaissance supérieure. En l'occurrence, l'argument qui consiste à dire « on n'a jamais essayé » est à la fois parfaitement hypocrite et complètement faux. Puisqu'on les a vus à l'œuvre, les sapins de Noël, ils constituent à l'Assemblée nationale un groupe non négligeable qui fait depuis des mois la démonstration de leurs compétences en clamant à qui veut les entendre qu'ils représentent la masse des méprisés. Alors des méprisés de souche, hein, faut pas non plus complètement déconner, tout en votant par exemple contre le SMIC à 1500 euros, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre le gel des loyers, mais pour le durcissement du chômage. Et je ne vous parle même pas de leur position sur l'égalité homme-femme ou le respect des droits LGBTQIA+. Ensuite, parce qu'il n'est jamais ni prudent ni responsable de déléguer son pouvoir citoyen à un tiers, a fortiori, lorsque ce tiers se trouve être un sapin de Noël. Alors, quitte à se lancer dans l'aventure de l'inédit, pourquoi ne pas opter pour un truc que réellement on n'a jamais essayé, comme, je ne sais pas moi, la démocratie directe et la mise en place d'un modèle social juste, égalitaire et respectueux des spécificités de chaque individu. Un modèle social qui serait construit sur la solidarité et la bienveillance. Ça, c'est un truc qu'à ma connaissance, on n'a jamais essayé à grande échelle. Mais je sens que je commence à devenir sentencieux, et c'est une autre citation de Desproges qui me vient à présent en tête. « Il vaut mieux se taire et passer pour un con, plutôt que de parler et ne laisser aucun doute sur le sujet. » Alors je me tais, non sans vous avoir encouragé à lire et faire lire « Résister » de Salomé Sacquet. C'est édité chez Payot.
Merci Olivier pour ce cadeau qui éveille nos consciences aveuglé par le mercantilisme de la période de Noël. Allez, pour notre cinquième cadeau, il va falloir franchir l'océan Atlantique. Mais quel plaisir en ouvrant ce cinquième paquet cadeau de retrouver le shérif Walt Longmire et son vieil ami Henry Standing Bull. N'est-ce pas, Nadia ?
Oui, et on le retrouve. Bon, Walter Longmire est le fameux enquêteur de Craig Johnson et on le retrouve dans Un vol d'oiseau, édité chez Totem Gallmeister. Walt est le shérif d'Absaroka dans le Wyoming et il a l'habitude d'enquêter avec une adjointe au caractère bien trompé, Victoria Moretti. Lui est un homme plutôt mesuré, plutôt jovial, rien à voir avec ses collègues dépressifs nord-européens. Il est veuf et a élevé sa fille seule. C'est pour elle qu'il est dans Montana car il doit se marier avec Crazy Head Spring. Il revient à Walt de s'occuper de la salle de mariage. Et justement, il y a un problème, car la salle a été réservée pour deux événements. L'un étant une conférence concernant la communauté indienne, on fait valoir à Walt qu'il n'est pas prioritaire et on l'invite à rechercher un autre endroit. Alors pourquoi ne pas profiter d'un magnifique site naturel dont le Montana est richement doté ? C'est le chef de la nation Cheyenne, Henry Stanley Bear, qui l'accompagne dans sa recherche. C'est bien connu. Les emmerdes volent en escadrille et nos deux compères grillent un stop et sont sitôt appréhendés par Lolo Long, la nouvelle chef de la police tribale qui n'a pas du tout le sens de l'humour.
Moi non plus. Bonjour.
Et qui ressemble beaucoup à l'adjointe de Walt.
C'est qui veut du blanc ?
Après moult palabres, le périple se poursuit jusqu'à un magnifique espace dominé par des aplombs rocheux. Mains sur les hanches pour l'un, caméra au poing pour l'autre, ils envisagent si le site peut répondre à une cérémonie de mariage. Quand soudain, ils voient un corps chuter d'un promontoire. Ils accourent et constatent qu'il s'agit d'une femme tenant dans ses bras un nourrisson. Celui-ci est en vie, alors que sa mère, Audrey Plenfeser, est morte. Les secours, la police et même le FBI arrivent prestement. Ça fait suffisamment de monde pour inviter Walt à poursuivre l'organisation du mariage de sa fille. Sauf que le comportement irrespectueux de l'officier du FBI vis-à-vis de Lolo Long et le manque d'expérience de cette dernière le poussent à s'impliquer et puis en chemin, une voiture tente de le renverser. L'intrigue de cette nouvelle enquête est hyper bien ficelée. Craig Johnson nous introduit dans la communauté indienne en montrant comment les Amérindiens vivent la modernité, ces mots, mais aussi comment persistent des aspects culturels forts. Le duo Walt Longmire et Henry Standing Bear est épatant. Le récit est émaillé de punchlines, de jeux de mots et d'histoires drôles. Par exemple, est-ce que vous savez ce qu'est l'Alzheimer indien ?
Ah non, pas encore.
Pas encore. Eh bien, c'est quand on oublie tout, sauf la rancune. J'arrête là, je ne vais pas vous priver du plaisir de la découverte de l'humour indien, de l'enquête et de ce voyage dans le Montana. Bref, c'est un régal. Ça s'appelle « À vol d'oiseau » de Craig Johnson chez Totem Gallmeister.
Merci beaucoup, Nadia. On s'offre une seconde pause musicale avec The Vibrators, qui apparemment n'aiment pas Noël.
I'll be throwing up one.
De retour en direct sur les ondes de Radio Béton 93.6 et en direct du marché de Léon. Notre hotte de cadeaux est presque pleine, mais on va continuer à tasser pour ajouter un nouveau cadeau, le sixième, si je compte bien. Si, c'est ça. Et pour ce sixième cadeau, on reste aux États-Unis. C'est Odile qui nous emmène jusqu'en Californie.
Dompter les vagues de Van der Vede, paru chez 10-18. C'est l'histoire de Yulebi, une ado de 13 ans qui vit à San Francisco dans un quartier friqué avec vue sur le Golden Gate Bridge dans les années 80. Elle a une vie de rêve avec sa bande de copines, ses besties. Ses seuls sujets de conversation, oh surprise, sont les garçons, ou les corps qui se transforment ou pas, ou trop lentement en ce qui la concerne, alors que sa copine Maria Fabiola, elle devient une bombe. Bref, l'histoire d'une ado privilégiée, quoi. Mais un jour, elle est ostracisée par le groupe car elle n'est pas du même avis que les filles. Donc, les ragots et la rumeur font voler en éclats son monde parfait. En plus, la fille qui mène une cabale contre elle disparaît. Tata ! Est-ce que le roman deviendrait un polar inattendu ? Voilà, alors ça c'est le pitch. Ça vous tente ou pas ? Moi, normalement, j'aurais dû passer mon chemin. Mais il se trouve que j'étais ado dans les années 80. Alors, les hormones en délire, les premières fois en tout genre, l'affirmation de sa personnalité au sortir de l'enfance, le regard curieux, moralisateur et révolté porté sur sa propre famille, ses potes ou l'environnement extérieur, forcément, ça me parle à moi, mais comme à tout le monde. Ça s'appelle grandir, s'émanciper. Et donc, en fait, ce roman n'est pas un polar. Ce n'est pas une étude sociale sur les riches de la côte ouest américaine. Non, c'est un murmure. Un souffle qui d'un coup peut se transformer en tornade émotionnelle. Bref, c'est l'adolescence, tout simplement. Alors, évidemment, outre nos propres réminiscences, il y a, en tout cas pour moi, un lien cinématographique avec Virgin Suicides de Sofia Coppola, adapté du roman de Eugenides. Et comme les années 85-86 sont hyper bien décrites avec moult références, ça me fait penser aussi à l'écrivain américain Bret Easton Ellis. Le style d'écriture est parfait, simple, pas ampoulé, et la nostalgie s'exprime avec légèreté. Petit extrait. Hulubi avait prévu un costume d'Halloween de groupe avec son gang de filles, mais comme elle en est exclue, elle doit improviser. Le 30 octobre au soir, mes parents se rendent compte que je n'ai pas de costume. Je leur dis que ça fait rien, puis je demande à ma mère si je peux lui emprunter une écharpe. Je passe un bout entre les rayons d'une vieille roue de vélo, j'enroule l'autre autour de mon cou et je tiens la roue à deux mains. « Mais en quoi t'es déguisée ?» me demande Steve. « En Isadora Duncan. » « Mais c'est qui ça ?» C'était une danseuse. Elle est morte étranglée parce que le vent a entraîné son écharpe à l'extérieur de la voiture et qu'elle s'est prise dans la roue. « C'est horrible !» dit V. Je hausse les épaules. « Oh, des fois c'est dangereux la mode. » Alors, si le nom de l'auteur, Van der Vede, ne vous dit rien, sachez qu'aux USA, elle est hyper connue, car elle est éditrice et écrivain, et c'est son cinquième roman. En plus, elle tient une librairie. Et son mari n'est pas inconnu, c'est Dave Eggers, autre référence que nous avons déjà chroniquée sur Des poches sous les yeux, pas moins de 4 fois. Le seul bémol pour moi concernant ce roman Dompter les vagues, ce sont les dernières pages, avec un saut dans le temps en 2019, style « Que sont-elles devenues ?» Bon, je ne suis pas convaincue de la nécessité de ce saut dans le temps, mais je ne peux que vous recommander de lire « Dompter les vagues » de Van Delvide, paru chez 10-18, un roman d'apprentissage, une fois l'enfance emportée par le ressac. Il s'agit bien de dompter les vagues.
Merci Odile. Merci Odile. Et c'est moi qui vais vous remettre votre septième cadeau en main propre. Pour cela, je vous propose de remonter au début des années 70. En 1972, plus précisément, sort « Les limites de la croissance », plus connu sous le nom de « Rapport du Club de Rome », la première publication universitaire mettant en évidence l'impact systémique de la croissance sur l'environnement au regard de la limitation des ressources de l'évolution démographique. Les plus anciens se souviennent peut-être de René Dumont qui se présenta à la présidentielle en 1974 et dont le programme s'appuyait largement sur les enseignements du rapport du Club de Rome, qui de fait servit de fondement à l'écologie politique. Pour les autres, je vous propose Cabane, le roman d'Abel Quentin, publié aux éditions de l'Observatoire l'année dernière et disponible aujourd'hui au format de poche chez J'ai lu. Cabane s'inspire largement de l'événement que constitua l'édition du rapport du Club de Rome, mais pour le reste, l'auteur Abel Quentin s'affranchit largement de la réalité. Il fait son taf de romancier pour notre plus grand plaisir. Dans les deux premières parties de son roman, Abel Quentin remonte aux sources et se penche sur la genèse du rapport et de sa révélation au grand public. Nous nous retrouvons au début des années 70 à Berkeley. Les jeunes étudiants qui nous intéressent restent étrangers aux good vibes et au flower power et à ces élans antimilitaristes qui inondent la côte ouest. Il faut dire que ces jeunes étudiants, deux Américains et deux Européens, qui appartiennent au laboratoire de dynamique des systèmes, ont enfin accès à un nouvel outil pour tester leur théorie, un ordinateur. Oui, un ordinateur dont la puissance de calcul va enfin leur permettre d'évaluer l'impact dans le temps de la croissance, de la démographie sur les ressources naturelles et l'environnement et de concevoir différents scénarios pour justement limiter ces impacts et éviter le grand effondrement. Abel Quentin restitue cette aventure scientifique en s'intéressant davantage à la psychologie des personnages, à l'air du temps d'alors qu'aux théories qu'ils mettent en œuvre, et c'est heureux. La troisième partie est contemporaine et est narrée à la première personne du singulier. Celui qui prend la parole est un journaliste précaire qui, à l'occasion des 50 ans de la publication du rapport, souhaite faire un sujet sur ses auteurs. Nous suivons donc son enquête pour renouer le contact avec les deux auteurs européens en particulier du rapport qui ont connu des carrières opposées. L'un a retourné sa veste et a monnayé ses compétences auprès de l'industrie pétrolière. L'autre, un le plus geek de la bande, n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs décennies. Bref, la tâche de notre journaliste va lui donner bien du fil à retordre. Au-delà de l'enquête que mène le journaliste et qui nous tient en haleine sur 550 pages, Abel Quentin s'interroge avec nous sur la destinée de ces chercheurs qui ont eu le malheur d'avoir raison avant tout le monde, d'avoir tiré la sonnette d'alarme sans que personne n'y fasse vraiment quoi que ce soit, ni les politiques, ni les journalistes. On leur a donné une tribune, on les a écoutés poliment et puis on est passé à autre chose. À l'époque, il n'était pas encore question du réchauffement climatique, mais il était déjà question de la sauvegarde des ressources naturelles et du fait qu'il n'y avait pas de planète B. Tiens, au fait, j'ai demandé à Copilote d'estimer l'impact environnemental de la production d'un livre de poche de 550 pages. L'IA de Microsoft l'estime à 2,5 kg de CO2. Sachant que pour respecter l'accord de Paris et donc limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré, chaque Français devra émettre au maximum 2 tonnes de CO2 par an en 2050, alors qu'aujourd'hui on est plutôt aux alentours de 10 tonnes de CO2 par Français, je ne saurais trop vous encourager de ne pas acheter Cabane d'Abel Quentin publié chez J'ai lu, mais plutôt d'aller l'emprunter auprès de votre bibliothèque municipale préférée. Sur ces sinistres nouvelles, écoutons White Christmas, revisité par Iggy Pop.
Like the ones I used to know.
de retour en direct du marché de Léon, le marché de Noël Made in Bâton qui vous attend au péristyle de la mairie de Tours avec impatience. Voici en guise de huitième cadeau l'interview de Guillaume Meurice himself et Éric Lagalec par Pascal à l'occasion de leur passage au bateau ivre la semaine dernière.
Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Meurice et Éric Lagalec pour parler de votre spectacle « Vers l'infini, mais pas au-delà » qui joue ce soir au Bateau Ivre. Et on va parler aussi de bouquins, puisqu'il est sorti en mai 2025 dans l'oreille du cyclone « Chez Point » de Guillaume Meurice et en octobre 2024, « L'Odyssée cosmique », toujours au point d'Éric Lagalec. Bon, soyons honnêtes, hein, je n'ai pas encore vu votre spectacle, mais j'ai lu vos livres. Hein, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas grand-chose en commun entre un astrophysicien et un trublion radiophonique. C'est quoi l'histoire de votre rencontre, de votre spectacle ?
Eh ben si, on a des trucs en commun. Notamment le fait qu'on aime bien faire des blagues. Moi, j'en ai fait un métier, mais j'ai rencontré Éric sur les réseaux sociaux. Et on s'est bien entendu, on a commencé à se faire des blagues. Et j'ai vu Éric en conférence. Ce qui donne des conférences en tant que scientifique et les conférences sont assez drôles, notamment une qui s'appelle La bière, la poussière d'étoiles.
Nous sommes des poussières d'étoiles et la bière aussi.
Voilà.
C'est-à-dire que l'univers s'est formé il y a 13,8 milliards d'années par le Big Bang et tout s'est structuré jusqu'à l'état suprême qui est la bière, qui est la preuve que si Dieu existe, il nous aime. C'est un petit résumé de la conférence.
Tout à fait scientifique. Mmh. Et...
donc Guillaume, ça veut dire qu'il suffit que vous rencontriez quelqu'un comme ça, vous suivez quelqu'un sur,
oui.
Sur X et ensuite, hop, ah bah tiens, si on faisait un spectacle.
Ouais, après on a une proposition j'ai une proposition d'un festival à Strasbourg, qui est un festival d'humour et de science, qui m'ont proposé une carte blanche et j'ai dit à Éric, est-ce que ça te dit de faire un truc avec moi ? Et à la base, c'était prévu pour une soirée. Et il se trouve que ça a bien marché, que les gens avaient l'air contents, puis que nous, on s'est bien marrés. Et on a la chance aussi d'avoir un producteur qui s'intéresse à la science.
Un producteur qui est docteur en physique.
Docteur en physique, voilà.
Erwan Rodari. Et on a un autre point commun, quand même. Tu parles des deux livres, c'est la même éditrice qui habite à Tours, en plus, à Louis Vio. Donc, plein de points communs. On est des hommes blancs.
Hétérosexuels, ouais. Cisgenres, ouais. Les privilégiés.
Ouais.
Pardon, on s'excuse.
Sur le site web du spectacle, hein, on peut lire « Deux choses sont infinies, l'univers et les bêtises humaines hein, ». Mais en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas encore acquis la certitude absolue. C'est une citation d'Albert Einstein.
C'est une citation attribuée à Albert Einstein. A priori, Albert Einstein n'aurait jamais dit ça, d'accord. Mais souvent on l'attribue
je pense qu'il l'a dit, mais en allemand.
Ouais.
Éric, à la lecture du livre « L'Odyssée cosmique », j'ai cru comprendre que l'univers était en expansion, hein, ce qui sous-entend qu'il a des dimensions finies. J'ai tout bon ou pas ?
Là, on va faire un gros spoiler sur le spectacle. En fait, on va voir qui a le plus gros infini entre donc, l'univers, donc je suis a priori spécialiste, et la connerie dont je pense que tout le monde sera d'accord que Guillaume est spécialiste.
J'ai fait mes preuves là-dedans.
Et on essaie de voir qui a le plus gros infini, et je pense que je ne vais pas gagner. Parce que oui, l'univers, il est malheureusement fini alors que la connerie humaine...
Guillaume, donc, par contre, la bêtise humaine, hein, les limites semblent toujours repoussées chaque jour.
Ah ouais, c'est une sorte d'horizon. À chaque fois qu'on avance, ça recule. Donc voilà, à chaque fois qu'on se dit, bon là, vraiment, on est arrivé au bout, paf, Donald Trump arrive et il sort une dinguerie ou Louis Sarkozy débarque sur les chaînes de télé. Donc c'est un infini sans fin.
On a un certain lien aussi, un mec qui s'appelle Michel Onfray. Michel Onfray, ouais, qui est comme spécialiste de la connerie, qui a dit récemment que le réchauffement climatique n'était pas dû à l'homme, mais à l'interaction entre les multivers. Donc je pense que Michel Onfray, ouais. C'est un beau point commun entre nous deux.
Et un très bon influenceur LSD, ouais. Également.
Bon, Éric, à la lecture de l'Odyssée cosmique, on rit pas franchement, hein, c'est pas un bouquin humoristique, hein, mais par contre, on partage votre passion.
En fait, on rit pas parce que la version originale, je vais peut-être dénoncer une de Salomé, du coup, qui est le point commun, qui a fait un contre-lef de... Michel Drucker et bière, je ne sais pas pourquoi, elle a enlevé un petit peu toutes les blagues. Oui, l'idée, c'était de partager le ciel plutôt avec des émotions. Parce que je pense que ce qu'on dit toujours avec Guillaume, c'est que pour transmettre, il faut qu'il y ait des émotions. Donc l'émotion, ça peut être soit l'humour, soit vraiment se sentir imprégné par quelque chose qui nous prend vraiment par le cœur ou par des émotions assez fortes. Et pour le livre, on a essayé de passer plutôt par ces émotions plutôt que le rire.
Il n'est pas toujours aisé à comprendre. Enfin, je veux dire, il faut parfois s'accrocher. Par exemple, l'histoire de l'ensemencement, pour moi, c'était une grande découverte. Hein. Donc, si j'ai bien compris, notre Soleil est jeune, il est plus jeune que l'univers. Puisqu'il est jeune, il est formé principalement d'hydrogène et d'hélium. Ce qui veut dire que sur Terre, on trouve plein d'autres atomes. Hein, et ces atomes, ils ne peuvent pas venir de notre Soleil. Ils viennent de l'ensemencement, c'est-à-dire par l'explosion de vieilles étoiles plus vieilles que notre système solaire.
Et c'est ça, en fait. Tout ce qu'il y a sur Terre vient de gaz qui était là quand le Soleil s'est formé. Et donc, ça a été formé avant la naissance du Soleil. Donc, tout ce qu'il y a sur Terre a au moins 4,5 milliards d'années. Et les choses les plus vieilles, notamment l'hydrogène et l'hélium, qui ont été formés juste après le Big Bang, vont avoir 13,8 milliards d'années. Donc, si vous vous sentez vieux, dites-vous qu'il n'y a rien dans vous qui a moins de 4,5 milliards d'années.
Ça va.
Alors moi, Eric, pour être franc, j'ai lu le livre avec une fenêtre Google ouverte sur mon navigateur pour pouvoir aller voir des photos, repérer, enfin avoir des explications complémentaires. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de photos dans le bouquin ou un peu de réalité augmentée?
En fait, il y a des photos dans le livre original. C'est la version poche que vous avez lue et en plus la version PDF que j'aurais. Donc il y a un livret de photos qui est disponible avec et qui permet justement de. Je pense que c'est ça qui est beau avec l'astronomie, c'est qu'on a des belles images qui permettent de rêver en regardant les images, et en plus ça illustre le propos. Donc il y a tout un carnet de photos qui illustre le.
Ah d'accord, j'ai eu la version appauvrie, moi.
Voilà. Et là, la version radio. En radio, on arrive à faire sans images.
C'est un jour historique pour Éric Lagadec, puisque c'est l'anniversaire de. Ça,
de ma thèse. Ça fait 20 ans aujourd'hui que j'ai soutenu ma thèse. Est-ce que Guillaume va être capable? Ça fait 50 fois que je lui dis le titre de ma thèse.
La thèse d'Éric Lagadec, c'est l'apport des observations des infrarouges. Les observations infrarouges?
Ouais. Pour?
Pour la perte de masse pour l'étude de la perte de masse des étoiles évoluées.
Pas mal. Je mets 15 sur 20.
Moi, je pense que c'est des mots aléatoires et que ça veut rien dire. C'est juste pour impressionner les gens et moi, ça m'impressionne de fou.
Et bon, et donc, dans le dernier chapitre, vous parlez d'observation de Saturne à l'ancienne, c'est-à-dire avec l'œil. Ouais, ce qui veut dire que, en fait, dans toutes vos recherches, c'est toujours un ordinateur qui voit les images.
Oui, parce qu'en fait, je pense que si on met deux personnes à regarder la même chose à travers le même télescope, on demande ce qu'ils ont vu, chacun aura vu un truc différent. Donc, je pense que le fait d'avoir un capteur, c'est ce qu'on a aujourd'hui sur nos téléphones. Hein. Quand on prend une photo avec un téléphone, on a des pixels, les pixels vont transformer la lumière en signal électrique et comme ça, on va pouvoir l'enregistrer. Donc aujourd'hui, nos télescopes, d'ailleurs, les appareils photo numériques ont été développés grâce à l'astronomie. C'est aussi une des choses intéressantes. On fait de la science avec des détecteurs, donc des caméras comme on peut avoir sur les appareils photo, mais c'est toujours bien de mettre aussi l'œil au télescope de temps en temps et de rêver. Je pense qu'il faut pas perdre ce côté de l'astronomie, le ciel, c'est quelque chose qui nous fait rêver et je pense que c'est important. Moi, je suis allé souvent en Chine, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui allaient à l'endroit où il y avait le plus beau ciel au monde et ils sortaient pas de devant leur ordinateur. Je disais, mais allez dehors, regardez le ciel, il y a le plus beau ciel que l'humanité puisse voir et vous êtes là et vous restez. Enfin, je trouve ça dommage, je pense que c'est important de continuer à rêver.
C'est vrai que le bouquin nous pousse sans arrêt à sortir dehors et à lever le nez, quoi.
Je pense que c'est le plus beau spectacle qu'on puisse avoir et c'est gratuit. Enfin, non, c'est le deuxième plus beau spectacle qu'on puisse avoir après vers l'infini, mais pas au-delà.
C'est le premier spectacle gratuit.
Et voilà.
Bon, et revenons au spectacle, l'astrophysique a-t-elle besoin d'un bouffon pour être plus digeste?
Le bouffon, c'est moi ou c'est Guillaume?
Juste pour savoir, en fait. Cocher la case.
Non, mais moi, je pense qu'encore une fois, que pour transmettre, on a besoin de sortir des cadres où les choses font peur, en fait. Y a plein de gens qui disent « des sciences, ça me fait peur ». Et moi, je trouve que le prendre par la rigolade, ça permet aux gens de s'ouvrir. Parce que quand on a peur, on n'apprend pas, mais si on rigole, c'est plus facile d'apprendre. Moi, j'enseigne toujours comme ça, j'ai toujours fait comme ça, et je pense que c'est... D'ailleurs, ça surprend un peu mes étudiants, parce que des fois, il y a des bouts de spectacle qui sortent pendant mes cours à la fac, mais ils reviennent, donc a priori, ça passe.
Ils sont obligés de revenir.
Ouais. Non, ils ne sont pas obligés, ils font ce qu'ils veulent, mes étudiants.
Guillaume, peut-on rire de tout, même des étoiles?
Bah oui, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu de plainte pour l'instant.
Parce que moi j'imaginais les bandeaux des médias Bolloré. Guillaume Meurice se moque des étoiles jaunes.
Ouais. Ah ouais, pas mal.
Les étoiles jaunes sont d'énormes cuvapis.
Ah, écoute, pour l'instant, non. On a eu des plaintes plutôt du ministère de l'Intérieur, plutôt de la place Beauvau, mais pas encore de.
Pas du ministre
d'Andromède
ou du ministre de l'Univers.
Le ministre de l'Univers, vous allez, c'est tranquille. Pour l'instant, ça va. C'est encore une zone. Assez peu exploré, donc on peut vadrouiller librement.
Et Guillaume, vous avez besoin d'une caution scientifique pour redorer votre blason, votre image?
Oui, c'est ça. Exactement, je me sers de la Gadec pour dire, regardez, je suis débile, d'accord, mais je connais des gens intelligents. Ah bah oui, quand on a monté le spectacle, on s'est tout de suite dit, bon bah voilà, il faut qu'on joue les deux spécialistes. Alors moi, j'ai une double casquette, parce que je suis moi-même créateur de conneries et observateur de la connerie. Donc j'avais un double profil.
Mais là, le spectacle préexistait par rapport au propos du livre.
Alors le livre dont tu parles, c'est Dans l'oreille du cyclone?
Oui.
Oui, on a commencé, bah oui, puisqu'on avait déjà commencé la tournée d'ailleurs.
D'ailleurs c'est dans le livre, dans le chapitre,
ouais,
le 1er novembre.
1er novembre, on était à Nantes, c'est là où la polémique a commencé. Donc j'étais avec Eric au festival, un super festival d'ailleurs qui a lieu à Nantes, qui s'appelle les Utopiales. Et on a joué devant 1800 personnes, c'était assez fou. Et pendant ce temps-là, la Bolloré sphère s'acharnait.
Pour l'anecdote, moi j'étais dans le train de nuit pour venir à Nantes et j'allume Twitter, je vois Guillaume Meurice en tendance numéro 1, je dis qu'est-ce qui se passe là.
Puis qu'est-ce qu'il a cassé encore?
C'était le début du Prepuce Gate.
Exact.
Guillaume, dans l'oreille du cyclone, donc c'est votre histoire, hein, après la vanne sur le déguisement d'Halloween. Vous racontez l'emballement médiatique et judiciaire qui s'en est suivi, mais l'histoire s'arrête avant la fin. La plainte pour provocation à la violence et à la haine antisémite a été classée sans suite. Vous avez répété la vanne et été viré de France Inter. Pourquoi avoir ne pas avoir été jusqu'au bout?
Parce que le livre, il est sorti avant et je ne savais pas ce qui allait se passer. J'ai vraiment assez peu de capacité d'anticipation et aucun don de voyance.
Je croyais que c'était pour préparer un tome 2 ou...
Non, mais je me suis posé la question, mais c'est-à-dire mon avocat, pour rigoler, il m'a dit, tu vas pouvoir faire un tome 2.
Ah, parce qu'il y a une suite la semaine prochaine, quand même.
Et les prud'hommes la semaine prochaine, ouais. Donc peut-être il y aura un tome 2. Ouais, on va savoir. Mais non, pour l'instant c'est pas prévu. Je voulais
pour
raconter.
Les prud'hommes, il n'y a pas beaucoup de risques entre guillemets. Quoi.
Ah non, les prud'hommes, on sait pas. Hein, c'est pas des juges professionnels, donc c'est quatre personnes qui décident dans leur âme et conscience.
On peut juste toucher
les salariés, de représentants du patronat.
On peut juste toucher le pactole ou pas.
Voilà, c'est ça. Donc on verra bien. Et j'ai d'ores et déjà annoncé que si je touchais le fameux pactole, je reversais tout à MSF Urgence Gaza.
Et voilà, merci Pascal pour ce super interview de Guillaume Meurice et Eric Lagadette. Avant de rendre l'antenne, et pour ceux qui se sentent, pour ceux qui sentent poindre en eux, oui,
que vous pourrez écouter en entier, parce que là c'est une version 10 minutes, une version en entier que vous pourrez écouter sur les podcasts.
Extended version.
Yes, full version.
Full version. Eh bien voilà, donc pour ceux qui sentent poindre en eux le titillement de l'écriture, à partir de lundi 15 décembre sera lancé le célébrissime concours de micro-nouvelles 93.6. 93 mots pour le texte, 6 mots pour le titre. Bien sûr, organisé par Radio Béton, l'université, la bibliothèque. Et le thème de cette année, c'est « Arrête ton cirque ». On en a même fait un jingle.
Lancement du concours Béton de la micro-nouvelle 93.6. En partenariat avec la bibliothèque municipale de Tours et l'université de Tours le 15 décembre 2025. Ce concours récompense les auteurs d'une nouvelle en 93 mots et 6 mots pour le titre. Rédigé en français, entièrement inédite et sur le thème au quart 2026. Arrête ton cirque. Vous avez jusqu'au 15 février 2026 minuit pour déposer votre micro-nouvelle sur radiobéton.com. Onglet le prix 93.6. Trois prix juniors. Adultes et étudiants. Des lots, deux par semaine pour au quart. L'adaptation sonore diffusée sur Radio Béton. Sa publication dans le zine d'au quart de Tours. Un chèque lire, des livres et des goodies.
C'est ainsi que s'achève Des poches sous les yeux, l'émission. Un grand merci au Marché de Léon pour son accueil, mais aussi aux chroniqueurs équeuses, à Pascal, à la technique. Chers auditeurices, vous êtes les bienvenus aujourd'hui et demain au Marché de Léon, au péristyle de la mairie de Tours, pour faire le plein de cadeaux. Nous, on se retrouve l'année prochaine, samedi 24 janvier, depuis un haut lieu de la culture tourangelle dont nous gardons encore secret le nom. Pour les accros et les plus connectés, retrouvez l'intégralité de l'émission d'aujourd'hui sur podcast-radiobéton.com. On vous souhaite de très belles et très bonnes fêtes de fin d'année. D'ici là, allez chez vos libraires préférés, dans vos bibliothèques municipales, allez où vous voulez. Élisée, ciao.
Des poches sous les yeux, l'émission.
Ciao.